On est à la fin de notre cycle sur expérience de l'écriture ou des écritures, et certains de ceux qui sont intervenus sont revenus, et dans cette séance donc est un peu particulière parce que Jean-Michel Steck a accepté de me donner la réplique, de jouer le rôle de discutant. On en a l'habitude l'un et l'autre depuis de longues années, depuis plus d'une décennie maintenant. Et comme moi, Jean-Michel, donc, en est venu à une écriture historique sur la violence de guerre, et plus exactement sur sa dimension la plus extrême, avec ces deux livres. Donc, d'une part, le premier sur le 22 août 14, donc pour l'armée française. Et le second, beaucoup plus récent, qui est paru cette année, il est ici, sur le 1er juillet 1916 pour l'armée britannique, ce 1er juillet 16, donc, qui provoque la mort de 20 000 soldats britanniques et on laisse 40 000 blessés en une seule journée. On est donc ici devant la question de l'écriture de la violence, d'une forme de la violence de masse, qui est la violence combattante de la Première Guerre mondiale. La question de la Deuxième Guerre mondiale pourrait être posée aussi. Et donc, c'est un type d'écriture qui pose à celui qui la pratique toute une série de difficultés très spécifiques, sur lesquelles d'ailleurs, difficultés que je ne prétends pas résoudre, difficultés qui restent vraiment devant nous, me semble-t-il. Mais je propose qu'on examine cette question-là un peu plus tard, dans fin de propos, et il me semblait qu'il était peut-être utile de partir d'un peu plus loin. Et donc d'une citation très célèbre, trop célèbre, extrêmement séduisante pour le sujet qui nous occupe, un peu trop séduisante à mon avis d'ailleurs, celle de Walter Benjamin, donc dans « Expérience et pauvreté » en 1933, qui dit ceci. La citation, on la donne généralement de manière tronquée, donc je la donne un petit peu plus longue. Le cours de l'expérience a chuté, et ce, dans une génération qui fit, en 14-18, l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle. N'a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expérience communicable ? Et cette citation, qui est très souvent donnée, on trouve partout, est peut-être effectivement vérifiable. Par exemple, dans le cadre de l'intimité familiale, ce silence des vétérans que l'on trouve après la Première mondiale, après l'Algérie, après l'Indochine, après la Deuxième Guerre mondiale, ce mutisme des vétérans, ce mutisme aussi des déportés. Il y a encore la semaine dernière, pour une séance d'un séminaire que j'animerai cette année à l'École des études, qui s'appelle Sortir de la guerre, un séminaire peuplé surtout de spécialistes de la psyché qui travaillaient autrefois avec Jean-Max Godillère et Françoise Davoine. J'ai été interviewé une rescapée d'Auschwitz d'abord, de Bergen-Belsen après, donc Ginette Kolinka, non pas pour qu'elle vienne nous donner un témoignage frontal, mais pour qu'elle vienne nous dire, qu'elle vienne témoigner sur son témoignage, qu'elle vienne nous dire pourquoi elle avait basculé dans un témoignage qui l'occupe à plein temps, à 92 ans. Évidemment, j'en suis venu à la question de la parole dans sa famille, très clairement, qu'elle n'avait jamais rien dit. Elle n'avait jamais rien dit, ni à son mari, ni à ses parents, sa mère surtout, et ses sœurs, quand elle est revenue des camps, puisque son père a été assassiné, qu'elle n'a jamais rien dit à ses enfants, et qu'il n'avait jamais été question de dire quoi que ce soit. Cette question du silence après ceux qui ont subi en particulier la violence, un type de violence combattante, violence des camps d'extermination, cette suggestion de Benjamin, au fond, me paraît fausse, en réalité, dès lors que l'on pose le problème du côté de l'écriture ou des écritures, bien sûr, je n'ai pas le temps ici de détailler, qu'il s'agisse des lettres, qu'il s'agisse des carnets personnels, qu'il s'agisse des témoignages, qu'il s'agisse des romans, de toutes les écritures qui ont accompagné au XXe siècle donc la violence de masse. Il me semble qu'à partir du début du XXe siècle, et je crois qu'on n'est pas sorti encore de cette configuration, il me semble que nous assistons, c'est bien la première fois qu'on a besoin d'une chaise supplémentaire. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Grâce à vous. Merci. Grâce à vous. Merci. Ah non, justement, non, on va le signaler. On va le signaler, vraiment, c'est un plaisir extraordinaire. C'est un plaisir extraordinaire. Jamais c'est arrivé. Donc, il me semble qu'on pourrait dire, en schématisant à l'extrême, qu'on assiste, à partir du début du XXe siècle, et à partir de la Grande Guerre en particulier, à une rencontre. La rencontre de sociétés massivement alphabétisées, pour l'Europe occidentale en particulier, souvent un peu plus alphabétisées qu'elles ne le sont aujourd'hui, ces mêmes sociétés. Des sociétés massivement alphabétisées, des sociétés démocratiques ou en voie de démocratisation, avec une grande prégnance du sujet politique, d'un principe d'individuation qui fait que, par exemple, le simple soldat se sent fondé à dire ce qu'il a vu et éventuellement à le publier, ce qui est absolument nouveau. Il existe désormais en tant qu'individu. Ces sociétés alphabétisées, ces sociétés démocratiques ou en cours de démocratisation, et une violence de guerre de masse, elle-même portée par une mobilisation quasi totale dans les sociétés belligérantes, hein, des tensions de recrutement extrêmes, hein, où la quasi-totalité de la population masculine utilisable entre, disons, 18 et 49 ans, donc doit porter l'uniforme et, pour une grande partie d'entre elles, affronter donc la violence de guerre. Donc, et ceci a suscité, ce silence dont parle indirectement, me semble-t-il, Benjamin, mais une immense expérience d'écriture de la violence, ou des violences, hein, des gammes, hein, de violences de guerre. Au point, me semble-t-il, et je crois qu'on s'en rend compte beaucoup mieux aujourd'hui, que ces violences se trouvent à l'origine, finalement, d'un patrimoine littéraire considérable. Et je vois la différence, puisque je vois la différence avec une autre société qui m'a beaucoup retenu ces derniers temps, et même cet été, parce que j'écrivais un peu là-dessus, qui a rencontré récemment une violence de masse, c'est la société rwandaise, avec le génocide des Tutsis entre avril et juillet 1994. Une société qui a rencontré donc la violence. Et quelle violence, hein, donc, hein, le dernier génocide du XXe siècle, mais une société où la part non alphabétisée de la population était importante, notamment dans une paysannerie qui composait 80% de la société rwandaise en 1994, une société où l'oralité est essentielle, hein, une oralité extraordinairement riche, extraordinairement profuse, hein, avec une langue qui est une des plus difficiles du monde d'ailleurs, une diversité extraordinaire, donc avec des capacités d'élaboration souvent extraordinaires. On trouve chez des paysans les plus, apparemment, les qui paraissent en apparence donc très dans une situation extraordinairement défavorisée, mais qui vous tiennent un discours oralement d'une richesse stupéfiante, mais l'écrit n'y est pas. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, mais il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait pratiquement aucun écrit venant, hein, de la société rwandaise et venant en particulier, hein, des rescapés, 300 000 à peu près, après le génocide. On voit, hein, pour un historien, des grandes violences, en particulier du premier XXe siècle, donc Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale tout particulièrement, le contraste était stupéfiant, hein, entre cette pauvreté, hein, de l'écrit, hein, de la société rwandaise post-génocide et la profusion, hein, de l'écrit sur la violence de guerre d'une société comme la société française, par exemple. Alors, ce patrimoine littéraire dont je parle, encore fallait-il l'identifier, le reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître à quel point il était lié à la violence de guerre, au point d'être parfois une écriture pour la guerre, une écriture de la guerre, parfois une écriture contre la guerre, mais éventuellement une écriture pour la guerre, avec une écriture pour la guerre en mettant un trait d'union entre les mots. Prenons un exemple extraordinairement banal, pardonnez-moi, l'exemple d'Apollinaire. Il a fallu attendre les années très récentes pour qu'on prenne complètement conscience à quel point le poète était un poète de guerre. La guerre, il suffit de lire les préfaces de tous ces de calligrammes d'ailleurs, qui ont été faites par des littéraires, remarquables par ailleurs, la guerre est un arrière-plan sans importance. C'est irrelevant. C'est absurde. Hein? Absurde. Hein? Si je mourais là-bas, hein, sur le front de l'armée, tu pleureras un jour, au loup, ma bien-aimée. C'est un poème de guerre, oui ou non? Et on pourrait, évidemment, multiplier les exemples. Et je rappelle que Calligramme, ce n'est pas Calligramme, c'est poème de paix et de guerre. 1916, ils ont été publiés en 1918. Pour un autre exemple qui m'a beaucoup frappé chez un auteur qui écrit très intelligemment sur la guerre, c'est Jean Rau, hein, prix Goncourt en 90, je crois, pour donc les Champs d'honneur, et qui est revenu en 2014 sur la genèse des Champs d'honneur, donc beaucoup sur la guerre, à travers ce petit bouquin qui a moins de succès que les Champs d'honneur, Un peu la guerre. Et il se trouve qu'il revient beaucoup sur ses études de lettres, donc à l'université de Nantes au début des années 70, et il nous dit ceci. Paradoxalement, alors que les récits autobiographiques sur les camps étaient déjà abondants et qu'on semblait faire grand cas de l'horreur, on ne trouvait rien dans cet enseignement universitaire sur cette littérature du corps souffrant. Rien sur Primo Levi, Elie Wiesel, David Rousset, Robert Antelme, lesquels en savaient pourtant long sur le mal et se retrouvaient d'accord avec Cabeza del Vaca, 400 ans après lui, pour dire qu'il aurait été impossible, après des années, à dormir à même le sol ou sur le bois nu d'un chalit, de passer une nuit dans un lit. Ainsi, les corps dialoguent à travers le temps, ils sont la seule mesure de ce continuum humain, mais par une étrange cécité. Ce n'est pas du témoignage de cela qu'on attendait un point de vue sur le mal. Pour un point de vue sur le mal, en 1970, voir Lovecraft et Bataille. Un mal déréalisé, en somme, métaphorique, cathartique peut-être. Les textes étaient là, encore fallait-il les voir, encore fallait-il les faire entrer, hein, les admettre. Hein, dans le patrimoine littéraire, ici, dans les études de littérature, mises complètement de côté. Hein, et ce témoignage me paraît extrêmement, extrêmement important. En fait, il me semble que c'est avec la Première Guerre mondiale qu'a commencé ce que Annette Wieworka, l'historienne Annette Wieworka, appelle l'ère du témoin. Et qu'elle fait commencer, elle, avec les camps, précisément, avec plus exactement avec le retour des camps. Je crois qu'elle se trompe. Hein, mais c'est une erreur très féconde parce que l'expression est très intéressante. Hein, l'ère du témoin, qui se signale par une immense prise de parole sur les violences de guerre, eh bien, cette prise de parole, elle commence, me semble-t-il, dans le monde occidental, surtout avec la Première Guerre mondiale. Cette prise de parole est en fait une prise d'écriture. C'est ça qui me paraît le point capital. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous proposer. Puisque c'est la Première Guerre mondiale qui, au fond, constitue, selon moi, le portail d'entrée dans ce processus d'écriture de la violence tout à fait nouveau, hein, inouï au sens propre du terme, eh bien, il me semble que ce ne serait pas inutile de regarder d'un peu plus près ce qui s'est joué, précisément, de ce côté-là, pendant la Grande Guerre, dans cette écriture de la violence de guerre, qui, pour la Première Guerre mondiale, est une écriture de la violence combattante essentiellement. Je crois qu'une des meilleures, approches, hein, je vais aller très vite bien sûr, extrêmement vite, une des meilleures approches sans doute c'est celle d'une collègue et amie littéraire, mais comme par hasard à cheval sur l'histoire et la littérature, qui s'appelle Karine Trévisan, et qui l'a très bien senti dans quelques articles, et je m'appuie un peu sur elle parce que je pense que c'est elle qui a été le plus loin ici dans l'identification du problème. Ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, et je crois qu'elle a raison, elle dit que ce qu'a provoqué que la violence nouvelle de la guerre moderne a provoqué une absence à soi au moment de l'épreuve, et notamment du cœur de l'épreuve combattante dans la Première Guerre mondiale, qui est le bombardement, qui est le fait de subir le bombardement de masse, hein, pendant des heures, des jours, éventuellement des semaines. Dans le cas des Anglais auxquels Jean-Michel s'est intéressé, l'armée allemande qui se trouve sur la Somme subit un bombardement jour et nuit, hein, qui est le plus grand bombardement de la guerre jusqu'ici, et il le subit pendant une semaine complète, jour et nuit. Et ici, une absence à soi, une sorte de défaillance du sujet, un anéantissement de soi. Les capacités d'appréhension du sujet sont totalement débordées. André, un des grands écrivains de guerre de la Première Guerre mondiale, André Pézard, dans un bouquin, un témoignage qui s'appelle « Nous autres avons quoi ?», paru pendant la guerre d'ailleurs, en 1918, dit à propos de ça, à propos de cette extraordinaire violence subie, qui est celle du bombardement, dit « Ça semble trop puissant pour entrer d'abord dans des yeux familiers. Je ne sais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, en quelque sorte, le voir. » Et Genevoix, qui est un des Genevoix, dont la grande œuvre est l'œuvre de guerre, précisément. Genevoix, le reste du Genevoix, ça ne compte pas, à mon avis, aujourd'hui sur le plan littéraire, alors que son œuvre de guerre reste absolument centrale. Dans son grand texte de 1923, Les Éparges, dit ceci: je ne me rappelle plus qui j'étais il y a seulement une heure. Je ne sais pas qui je serai dans une heure. Oui. Cette sorte de sortie de soi, hein, où l'identité du sujet, hein, est totalement subvertie, totalement mise en cause. Et dans d'autres moments, il le dit très bien, ça tourne au dédoublement, dans un texte plus antérieur, sous Verdun, en 1916, il dit « Je me regarde agir, je me vois, je fais ça. Tiens, Genevoix fait ça. » Et c'est un truc qu'on trouve ailleurs. Hein. Elie Faure, dans un grand bouquin qui s'appelle La Sainte Face, en 1917, le dit aussi. Je me vois. Me voici faire ce. Je me voici. Une espèce de sortie de soi, hein, qui est extraordinairement frappante. Mais évidemment, on ne le lit dans les témoignages que si on l'a compris à l'avance. Sinon, on peut passer évidemment à côté. Et donc, ce que dit Karine Trevisan, je crois qu'elle a tout à fait raison. Elle dit il s'agit. Donc, qu'est-ce que signifie pour ces combattants l'écriture de guerre ? L'écriture de guerre, il s'agit, les écritures de guerre, le carnet personnel, éventuellement la lettre, le témoignage d'après-coup, le témoignage pendant, le roman, il s'agit presque toujours de replacer l'expérience de terreur sous le contrôle, sous la dépendance de la parole. Ou plus exactement, à mon avis, Karine Trevisan dit la parole, je crois que c'est la dépendance de l'écriture. Donc, c'est un ressaisissement de soi par l'écriture. Je cite là Trevisan, elle le dit très bien, elle dit « On fabrique dans l'écriture une sorte de jumeau qui serait son propre témoin, dont les capacités d'observation et de jugement seraient restées intactes. » Il y a le soi qui a subi et qui est désorganisé, et puis, je te donne la parole, et puis quelqu'un d'autre qui, en écrivant, permet de rétablir, hein, en quelque sorte, une identité.
Jean-Michel, tu veux dire ? Juste pour te questionner, comme tu l'avais demandé, et je le ferai comme je le ferai dans le séminaire dans lequel tu as la gentillesse de nous accueillir, certains d'entre nous, depuis de longues années. Sur le témoignage, et Catherine Trevisan était venue dans un des séminaires cette année, effectivement, il y a beaucoup de témoignages écrits de ce combat intense. Ce qui me frappe, et moi ce qui me questionne, c'est que tu les as listés. Il y a le journal, que beaucoup tenaient, au jour le jour. Dans cette société, on avait l'habitude de prendre des notes. Les lettres qu'on écrivait à sa famille, à ses proches, presque 4 par jour en moyenne.
Parfois plus pour les
lettrés. Les écrits, au moment, parfois publiés au moment même, soit dans des revues, au moment même du conflit. Et puis ceux écrits longtemps après. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on parle, mais on ne dit pas toujours la même chose. On ne dit pas toujours la même chose. Dans le même instant, on ne dit pas la même chose dans son journal et dans la lettre qu'on écrit à ses parents ou à sa fiancée. On n'écrit pas la même chose dans le roman ou dans le témoignage qu'on publie pendant la guerre ou à la sortie de la guerre et celui qu'on publie au crépuscule de sa vie. C'est pas la même chose. Ernst Jünger, lui, a fait différentes éditions de L'Orage d'acier. Qui ont évolué, dont le texte finalement a évolué sur une trentaine d'années. Parler de Genevoix, le texte de Seul 14 est une chose, et ce qu'il a écrit sur les éparges dans les dernières années de sa vie, c'est pas tout à fait la même chose. Et en conscience d'ailleurs, il le dit. Et donc, le témoignage n'est pas le même suivant qu'il essaye d'être, me semble-t-il, une photographie de ce qu'on voit à un instant donné, soi-même ou dédoublé, et puisque l'âge venu, l'expérience, l'accumulation, l'intégration des témoignages différents de l'autre côté, etc., donne de la réflexion de ce qu'on a vécu. Et je voudrais savoir un petit peu justement est-ce qu'on peut structurer justement cette espèce de maturation du témoignage, qui parfois va jusqu'à la contradiction, pure et dure.
Oui, c'est particulièrement net dans un registre effectivement peu travaillé en France, mais très beaucoup travaillé au Royaume-Uni, qui est la poésie de guerre. Il y a un corpus de poètes anglais qui sont à peu près tous les mêmes, mais la manière dont ces poètes ont retravaillé leurs poèmes en les transformant et en les adaptant en fait à une demande sociale qui elle-même a évolué est un processus stupéfiant de réélaboration continuelle, hein, qui a fait beaucoup d'ailleurs de cette élaboration pour leur donner un statut que la poésie de guerre n'a pas en France, ces ajustements. Et je crois que ce que disait Jean-Michel est très important. Bon, un discours, vous le savez, est toujours un discours adressé. Évidemment, il ne s'agit pas de la même chose pour des lettres à son épouse, à ses parents, à ses enfants, etc. Tous les historiens, et pas seulement les historiens, le savent, entre les lettres et un carnet personnel, et le témoignage après coup. Et le cas Junger, que d'ailleurs je relisais cet été, est un cas vraiment paradigmatique, si on peut dire, parce qu'il y a effectivement les lettres à ses parents, qui sont d'un héroïsme, d'un volontarisme, qui aujourd'hui paraît extraordinairement déplaisant, d'ailleurs, et d'autant plus intéressant. Il y a son carnet, qui laisse place à ce moment-là à des choses un petit peu différentes, mais avec parfois des choses infiniment plus dures, évidemment, que ce qu'il écrit à ses parents. Et puis il y a, évidemment, le grand livre « Orage d'acier », donc au début des années 20, donc qui connaît effectivement plusieurs rééditions et des indentations d'Orage d'acier, pour les moments, un moment extraordinairement violent comme la grande offensive allemande de mars 18, à laquelle Junger participe dans les Sturmtruppen, titre de lieutenant, donc en charge des troupes d'assaut de la grande offensive, mécontent du récit qu'il en avait fait dans Rage d'acier, en fait un nouveau récit, Feu et sang, qui est publié en 1925, et qui déploie le temps de l'offensive, là où elle était en un chapitre, elle devient un livre, mais ce temps déployé n'est pas le même temps que le temps du roman témoignage Orage d'acier, au prix effectivement là de toute une série de réaménagements et effectivement, comme Jean-Michel le disait, de contradictions. Et c'est vraiment la grande richesse et la grande difficulté du témoignage. Le témoignage, évidemment, est extraordinairement fluide, il est labile, et donc cette écriture de la violence n'est jamais complètement fixée, en dépit du désir de certains combattants, comme Jean-Anton Cru, par exemple, à la fin des années 20, de le fixer, justement, et d'arriver enfin à mettre un cadre, une norme, sur ce qui avait pu être dit. Alors, donc, à mon avis, il me semble que je termine là-dessus, cette ressaisie du moi par l'écriture est un phénomène extraordinairement important pour la Première mondiale. Il me semble qu'on peut retransposer cette lecture de l'écriture de violence dans d'autres configurations du XXe siècle. J'en ai fait, j'avais écrit j'ai un récit familial que j'ai appelé « Quelle histoire ?» J'ai pu le constater pour le père de mon père, Robert Audouin, quand il monte en ligne dans la Somme, précisément en août 16, il subit un bombardement de nuit qui est son baptême du feu, c'est une expérience de terreur indicible. Que fait-il le lendemain ou le surlendemain? Il l'écrit parce qu'il s'agit effectivement de reprendre le contrôle d'une situation et de reprendre le contrôle d'abord de lui-même. Il me semble donc qu'effectivement l'écriture de violence a été une arme contre une forme de dissociation intime provoquée par la violence. Elle réorganise, elle rétablit le rapport de soi à soi. Contrairement, j'y insiste un peu parce que, contrairement à la vision classique de la littérature du témoignage, qui dit, qui est présentée comme une obligation ressentie par le scripteur, une obligation de rapporter à ses semblables des faits de violence dont ils ont été éloignés, dont ils n'ont pas été témoins, qu'ils ignoreraient toujours autrement, et donc c'est une manière d'attester ce qui a eu lieu. Hein. C'est une vision simple, commode, qui est souvent d'ailleurs déployée par les témoins eux-mêmes, mais probablement une vision insuffisante, superficielle. En poussant un petit peu dans ces retranchements cette rescapée d'Auschwitz et de Bergen-Belsen la semaine dernière, avec le respect que vous imaginez, je dis, mais au fond, pourquoi vous, si vous témoignez si souvent dans les classes, partout, etc., vous le faites tout de même pour quelque chose. Vous pensez que ça sert à quelque chose. Avec ça, l'honnêteté qui la caractérise, je me dis, mais absolument à rien. C'est à moi que ça fait du bien. Je n'ai pas insisté, bien entendu. Je ne vois dans les éparges, donc dit ceci, je donne cette citation que je trouve très, très belle. Un besoin de vérité, il parle des soldats qui passent leur temps à écrire. Ça avait stupéfié Dorgelès dans les trains en 14, tout le monde est en train d'écrire son carnet. Enfin, il y a des écrivains ici, c'est ridicule. Je ne vois pas, un besoin de vérité les contraignait à écrire, un besoin de mesurer entière la réalité formidable à quoi ils venaient d'échapper, de se répéter à eux-mêmes, j'y étais moi, j'ai vécu ça, moi, et me voici, moi, toujours. Voilà. J'écris, je suis vivant. Voilà, c'est là, je crois, que se trouve le cœur pour tout le premier XXe siècle de cette extraordinaire activité d'écriture de la violence qui caractérise cette période et qui, à mon avis, est un socle de notre rapport au monde aujourd'hui. Alors, il y aura une autre dimension. Tu m'interromps, Jean-Michel, si tu le souhaites. Il y aura une autre dimension de cette question de l'écriture de la violence, des violences ou des écritures des violences. C'est la question de l'écriture par les sciences sociales. Et ça nous rapproche, Jean-Michel et moi, de ce qu'on essaye de faire. Et ce que je le disais en introduction, c'est une question à laquelle je cesse de réfléchir depuis une dizaine d'années, quand j'ai pris conscience que c'était un problème. Avant, je ne pensais même pas que c'en était un. Il me semble qu'on peut faire peut-être quelques constats. Un constat que j'avais fait il y a quelques années, le problème de base, c'est que nous n'avons pas aidé par... les historiens, les sociologues, les anthropologues du XXe siècle, ayant traversé eux-mêmes, à la première personne, une expérience de violence de masse. Les social scientists, donc, ayant été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, et beaucoup l'ont été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui ont été prisonniers, etc., eh bien, contrairement à tant de leurs contemporains, dans leur domaine d'expertise, les sciences sociales, eh bien, eux n'ont pas écrit leur guerre. Eux n'ont pas écrit la violence la plupart du temps. Et ils se sont refusés à l'écrire dans leur historiographie, dans leur anthropologie, dans leur sociologie. Alors, on peut faire la liste des silences, hein, Robert Hertz, Marcel Mauss, Pierre Redouvin, Marc Bloch, Lucien Febvre, exactement le même cas, en Grande-Bretagne, Ivan Pritchard, Edmund Leach, Jack Goody, Clifford Geertz, pour le cas quand il découvre Sumatra en 1958, en pleine guerre civile. Et pour l'Allemagne, Norbert Elias, qui est un cas également vraiment paradigmatique, puisque tourne le dos littéralement à sa propre expérience. Tourne le dos littéralement à sa propre expérience de guerre. Et il y a une exception remarquable, certes, mais c'est une exception, c'est Marc Bloch de L'Étrange Défaite, de L'Étrange Défaite rédigé en juillet 40, où Marc Bloch, d'un seul coup, si on peut dire, sans aucune documentation, et après, là, revient sur les deux expériences de guerre. Hein, celle de 14 et celle de mai-juin 40, L'Étrange Défaite est toujours présentée comme un témoignage extraordinaire sur la France des années 30. L'Étrange Défaite est d'abord un témoignage extraordinaire d'anthropologie historique comparé sur deux expériences de violence vécues à la première personne. À mon avis, c'est en tout cas comme ça que je propose de le lire. Alors pourquoi les choses se passent comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi les historiens, les anthropologues, les sociologues qui ont connu, qui ont traversé des expériences de violence sont redoutables. Pourquoi n'ont-ils pas su ou pu en faire quelque chose avec leurs outils disciplinaires? Je ne sais pas. C'est une question que j'ai posée à un anthropologue que j'aime énormément, qui est Jean-Pierre Varnier, anthropologue du corps, anthropologue des objets, anthropologue par ailleurs, dans son terrain étant le Cameroun des Grassfields, donc pas du tout la guerre, pas du tout les situations de guerre, mais qui comprend ça admirablement. Il dit, au fond, il dit, un certain nombre d'anthropologues comme Radcliffe Brown, par exemple, pour le Royaume-Uni, ont une responsabilité centrale dans ce déni de violence, en particulier en anthropologie, en ayant voulu fonder l'anthropologie sociale comme science dans laquelle le choix du terrain et le travail ensuite du terrain répondait à un souci de professionnaliser l'anthropologie, d'en exclure les amateurs, donc d'en exclure la vraie vie, les militaires, les prêtres, les pasteurs, les commerçants, etc., tout ça, de côté, hein, et se plaçant ainsi hors histoire. Et voilà, donc l'expérience personnelle, ce fait, devait être exclue, finalement, du champ du travail, hein, hors cadre. Alors, est-ce qu'il s'est passé la même chose, par exemple, pour les historiens français? Je le crois. Quelqu'un comme Pierre Renouvin, par exemple, grand historien qui a dominé vraiment l'historiographie française contemporaine dans l'entre-deux-guerres et bien après la guerre, bien après la Deuxième Guerre mondiale. Si on voulait être historien en France, il fallait en passer par Pierre Renouvin. Pas tellement de moyens en histoire contemporaine. Hein. C'était pratiquement impossible de faire autrement. C'est un cas.
Il avait le bras long.
Voilà, c'est malin. Pierre Renouvin avait été blessé grièvement au chemin des dames, perdu un bras, il n'avait que deux doigts de l'autre main. C'est avec ça qu'il a tout fait. Hein. Et il n'y a dans toutes ses conférences partout, pas un mot, pas une ligne sur sa propre expérience de la guerre.
Ou sur le combat.
Et encore moins sur le combat.
L'histoire diplomatique de la Première Guerre.
Et quand il parle ici ou là des soldats, etc., c'est des endroits où il n'a jamais été. Comme ça, la fermeture est absolument totale. Alors, tout ça est intéressant, mais ça ne suffit pas évidemment à expliquer complètement ce déni de violence des sciences humaines et sociales, qui est à mon avis, un déni dont je crois l'héritage est très lourd aujourd'hui, mais il me semble, et ça on pourra pouvoir peut-être en discuter, donc on est nombreux ici à pratiquer les sciences sociales, on pourra sans doute en discuter, il me semble que depuis les années 90 en particulier, on assiste dans le champ des sciences sociales, chez les historiens c'est manifeste en tout cas, un effort véritable d'écriture de la violence. Chez les historiens, c'est extraordinairement net. Les prémices se trouvent avec Kigan dans les années 70, The Face of Battle, donc l'anatomie de la bataille. Mais en France, à travers le travail, par exemple, de Denis Crouzet, donc les guerriers de Dieu sur la violence des guerres de religion au XVIe siècle, on a déjà toute la base, hein, de cette manière de regarder. Après, Christopher Browning, Les Hommes Ordinaires dans les années 90, Victor Davis Hanson, gars comme Christian Ingrao sur le nazisme en France, moi-même avec mes amis de Péronne sur la Première Guerre mondiale, on a souvent essayé de le faire aussi. La violence, en quelque sorte, est devenue vraiment un sujet en soi, mais au prix, je trouve, de toute une série de problèmes, trois, et je terminerai là-dessus, et très vite. Écrire sur la violence de guerre, sur les violences de guerre, sur les violences des guerres, qu'il s'agisse des violences combattantes, des massacres de masse, de l'extermination, des génocides, c'est écrire, à un moment ou à un autre, sur la violence de ceux qui mettent en œuvre cette même violence. Donc, c'est écrire sur la violence des tueurs, sur la violence des bourreaux. Et voilà, cette violence qu'on peut considérer, comme Denis Crouzet l'a montré, je trouve très bien, comme un langage. Un langage à décrypter, un langage qui a sa grammaire, tout un dictionnaire, très complexe, il faut à chaque fois refaire tout le dictionnaire, mais qui est un langage, hein, et qu'un langage, si on cherche à le décrypter, hein, qui peut susciter, hein, des effets d'intelligibilité extrêmement, extrêmement puissants. Mais du coup, impossible d'éviter une démarche compréhensive. De ceux qui mettent en œuvre la violence, y compris la violence extrême, y compris bien sûr les pratiques de cruauté. En a-t-on le droit? C'est une question, ma réponse est oui, bien sûr, mais elle n'est pas confortable, c'est un oui difficile. Je me souviens, j'étais d'ailleurs au Rwanda, la première fois que j'ai été au Rwanda en 2008, il y avait tout un colloque, j'étais vraiment dans mes petits souliers, pour des raisons que je ne développerai pas ici. Il y avait Yves Ternon, grand spécialiste des Arméniens, et qui a piquer une colère à la tribune en disant « on n'a pas le droit de s'intéresser aux tueurs ». Et quand il le disait au Rwanda, devant tout un parterre de rescapés, vous voyez, c'est quand même pas très facile de le contredire. On n'a pas le droit de s'intéresser. Ça y est, c'est terrible aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux tueurs, on n'a pas le droit de s'intéresser aux tueurs. Et voilà, est-ce qu'on a une réponse, tous ici, vous voyez, à cette question? Voilà, je la mets sur la table. Je pense que oui, mais si on répond oui, il ne faut pas oublier à ce moment-là qu'il faut en payer le prix. Et le prix à payer est assez élevé, parce que celui qui écrit sur la violence des tueurs, eh bien, peut toujours être soupçonné de l'annoncer et de vouloir la faire advenir. Et je m'en suis très souvent rendu compte dans ma propre carrière. Voilà. C'est lié à l'obscénité du dévoilement. Parler de la violence et la dévoiler, on ne peut pas l'analyser sans la dévoiler. Cette violence est souvent obscène, en latin, obscenus, ça veut dire de mauvais présage. Celui qui parle de la violence, qui l'énonce, et je parle d'un discours de sciences sociales, eh bien, peut toujours être soupçonné d'annoncer et de vouloir, en fait, qu'advienne ce dont il parle. Et ce mauvais présage de ceux qui écrivent sur la violence, ce mauvais présage est d'autant plus prégnant, je crois, que ceux qui écrivent dans ce domaine, et c'est particulièrement vrai de la violence génocide, eh bien, font montre de beaucoup de violence entre eux. Les gens qui travaillent sur la violence sont traversés par la violence de leur objet. C'est inévitable. C'est particulièrement vrai quand cette violence est extrême. C'est particulièrement vrai dans le cas des exterminations de masse. Et ils répliquent dans leur écriture, donc une part de la violence de leur objet. Pourquoi ? Parce que il me semble que l'écriture de la violence dans les sciences sociales tend à stabiliser l'objet étudié. De ce point de vue, il y a une ressemblance avec l'écriture des soldats pendant la Grande Guerre. Je le vois très bien, par exemple, d'expérience pour le Rwanda. Je ne m'exclus pas de ce que je suis en train de vous dire. Dans le cas du Rwanda, quand on est au Rwanda, on est confronté sur ce terrain on a des témoins qui ne sont pas comme Ginette Kolinka, dont je vous parlais, une femme de 92 ans. Vous avez tous les témoins que j'ai rencontrés au Rwanda sont évidemment plus jeunes que moi. Certains ont à peine plus de 20 ans. Donc voilà, ce qu'ils vous disent, etc. La fraîcheur tragique du génocide est extrême pour celui qui enquête sur place. Eh bien, quand j'écris sur le Rwanda, je supporte extrêmement mal que quelqu'un écrive quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, que quelqu'un soit en désaccord avec moi. Ça, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas parce que, évidemment, ça déstabilise un objet que j'essaye de stabiliser par mon écriture. Et c'est pareil pour les autres. Et c'est pour ça qu'il est extraordinairement difficile, alors que dans des petites communautés de chercheurs travaillant sur un même objet, ayant globalement, de très haut, un peu les mêmes objectifs, eh bien, il est très difficile de les mettre ensemble sans que la violence entre eux advienne presque immédiatement. Ceci, je trouve, pose un problème de sciences sociales, d'écriture, mais aussi de parole, bien sûr, qui n'est pas... Voilà, donc je ne conclue pas, parce que je n'ai pas de recette à vous proposer. Je pense en tout cas qu'écrire sur la violence de guerre dans les sciences sociales exige un effort réflexif particulier sur ce qui se joue à son insu. Dans ce type d'écriture, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est vraiment le moment d'écrire et pas seulement de se contenter de rédiger. Voilà.
Merci Stéphane. Et juste pour, on va lancer bien entendu. On va avoir un gros quart d'heure pour des questions, ce qui est très bien. Juste une incidente d'une minute. C'est effectivement dans la responsabilité des historiens que tu es, que certains d'entre nous essaient d'être sur la relation de combat et de la violence de guerre. Mon expérience, quand j'ai commencé à travailler dans ton séminaire, c'est que j'ai eu la chance de tomber tout de suite sur un sujet qui me semblait me convenir très bien, les jours les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Ok, 22 août 1914, 28 000 tués. Ah, parfait. Bon, et ils ont été tués où? Et quel rang ils avaient? Et qu'est-ce qu'ils avaient fait comme étude? Et ils venaient de quelle région? Et ils ont été tués par quoi? Et ils ont été tués à quelle heure? Et ils ont été tués... Hein? J'avais pratiquement ma feuille Excel devant moi, et en bon financier, je pouvais remplir, et c'était de l'analyse de données, enfin, je veux dire, et ma foi, très intéressant. Et puis, au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques visites, je me suis aperçu que derrière ces chiffres, bah, il y avait des hommes. C'était pas des hommes, c'était des fils, des frères, des maris, des pères, parfois. Et puis... commencer à remonter, si j'ose dire. Et donc, voilà, on essaie d'être le plus proche possible des faits, parce que c'est la responsabilité de base de l'historien. Et Dieu sait que les faits n'apparaissent pas les mêmes suivant la période à laquelle on écrit. Et puis derrière arrive une vague, remonte, une vague d'affects, et qui sont très forts. Il faut voir, quand tu as parlé de la réponse de Mme Kolinka, à ton interrogation sur le pourquoi de son témoignage, le silence qu'il y a eu ensuite autour de la table, plus marqué encore. Parce que, voilà, on est à cette confluence. Comment on fait après pour garder des faits qui ne soient pas pollués par les affects et des faits qui ne cachent pas, qui ne prétendent pas ignorer que les affects sont là et sont une force extraordinaire. C'est de la dynamite, ces sujets. C'est de la dynamite, je m'en suis sûr. À titre individuel, et à titre collectif, on s'est aperçu 10 fois qu'en parlant autour de soi des sujets sur lesquels on travaille, on touchait de la dynamite émotionnelle à des gens qui sont une ou deux ou trois générations distants des situations en cause. Donc, de manière générale, et sans vouloir prolonger le débat de plusieurs heures, juste une direction sur comment est-ce qu'on essaie de tenter de gérer ça.
Alors oui, c'est une question évidemment capitale hein, que pose Jean-Michel, qui lui-même... été pris dans cette affectation au sens strict de son propre sujet. C'est pas pour rien que tu as été le 22 août 2014, voilà, à Rossignol, là où c'est le point le plus extrême de cette journée extrême, hein, de cette période extrême de la fin du mois d'août 14, pour commémorer, etc. Il y a une opération quasiment cathartique, il faut bien le reconnaître.
Hein, totalement.
Donc, effectivement, cette histoire de la violence a toujours été, en tout cas chez tous ceux que je connais qui l'écrivent, c'est une histoire qui, pour tous, pour toutes, beaucoup de femmes maintenant, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, hein, et on est arrivé à la parité hein, sur ces sujets, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une vingtaine d'années. Donc, pratique une histoire qui, par définition, est affectée ou suraffectée. Hein, c'est une écriture, et donc... c'est une écriture donc très puissamment affectée. Dans le cas du Rwanda, par exemple, je peux dire qu'elle est suraffectée. Suraffectée. Je peux, à certains moments, quand je relis des phrases qu'on m'a dites, des témoignages que j'ai recueillis, je ne peux pas les relire. Je ne peux pas les relire. En tout cas, je ne peux pas les relire à haute voix. J'ai essayé récemment dans une émission pour France Musique, comme un crétin, j'ai voulu lire une strophe d'une chanson de commémorative que j'avais entendue, que j'avais noté les paroles, je n'ai pas pu aller au bout. Donc c'est une histoire extraordinairement affectée, je ne crois pas, après y avoir, mais je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que les affects bloquent la compréhension historique. Je crois qu'ils sont une des voies de l'intelligibilité. Donc je suis... Je pense que c'est une des manières de comprendre au sens vraiment strict du terme. Personnellement, je crois que je ne les interdis pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille les faire sentir dans l'écriture, il faut les retenir. Mais bon. Je crois que ces affects vont aujourd'hui, c'est une chose qui me préoccupe beaucoup pour les chercheurs qui travaillent avec moi, vont jusqu'à des formes de traumatisme. Des formes de trauma. Le traumatisme vicariant, c'est le vicaire, c'est celui qui suit le Christ. Traumatisme sans avoir vécu les situations des victimes, des rescapés, etc., mais par l'imprégnation répétée des récits, en particulier, mais aussi des lieux de visite, qui sont dans le cas, par exemple, d'une extraordinaire violence, eh bien, c'est, eh bien, le travail d'enquête devient une entrée dans des formes de trauma. Et c'est très frappant, je suis très frappé de voir, je le dis au passage, que dans ce pays où si vous avez assisté à un attentat, même à une grande distance, vous pouvez tout de suite avoir une prise en charge, donc un débriefing psychiatrique, etc., etc. Il y a deux professions en France qui, à ma connaissance, n'en bénéficient pas, c'est les médecins des hôpitaux d'une part, et les chercheurs de sciences sociales travaillant sur des terrains violents d'autre part. Alors que ce que je constate, c'est que aucun des chercheurs travaillant, en tout cas avec moi, sur des sujets donc très violents, eh bien, n'en sort indemne. Ni sur le Liban, ni sur le Rwanda, ni sur d'autres,
la Serbie,
ni sur d'autres, la Serbie, ni sur d'autres situations. Et donc l'enquête d'une part, l'écriture d'autre part, qui à mon avis n'est pas aussi cathartique sans doute qu'on pourrait le croire, voilà, crée une situation de danger psychique, pour lequel je dois dire je n'ai pas beaucoup de choses à proposer. J'en ai parlé à Richard Reichmann chez nous, mais il m'a dit ah oui, effectivement, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Lui-même le fait un peu là, comme ça, mais de manière s'occupe un petit peu des gens, mais de manière finalement très très artisanale.
Est-ce que je peux commencer à prendre, je vais peut-être prendre toutes les questions ici, n'hésitez pas, maître et d'accès.
Béatrice. C'est pas vraiment un exposé, hein, c'est...
Si.
Alors, oui, alors, la première chose, c'est effectivement, je pense qu'il y a des grandes distinctions à faire dans ces écrits que tu as commencé à lister, ceux qui sont faits au moment de la guerre, dans les tranchées, par exemple, ceux qui sont qui arrivent après, etc. Et il me semble que l'écrit qui est fait au moment de la guerre, qui est finalement l'écrit dont tu parles, cette idée de ressaisie de soi, il me semble que ce n'est pas seulement en fait un écrit, disons, adressé, c'est vrai, c'est un écrit adressé, mais c'est aussi, moi ce que j'aurais tendance à appeler, et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, un écrit situé. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que c'est un écrit qui est dans la situation, qui joue sur la situation. Alors, cette idée-là, il me semble qu'on peut aussi la raccorder à un travail un peu différent, mais celui qu'a fait Blancancière dans La Nuit des Prolétaires, où il explique comment tout un groupe de prolétaires au 19e avait décidé de prendre sur leur temps de repos pour écrire, et ainsi accomplir une sorte de forme, peut-être pas de libération, ce n'était pas du tout les termes de l'époque, mais en tous les cas de ressaisie de soi, en refusant de se reposer d'une certaine manière.
Canac, hein, qui au fond se plie à l'ordre colonial, mais crée hein, des textes qui sont le, d'après Mensa, non seulement un patrimoine donc, de toute la culture kanak, mais il parle d'un patrimoine littéraire pour toute l'humanité. Quand on lit ces textes, leur traduction, on est d'accord avec lui. C'est absolument une poésie admirable. C'est Théno en particulier, qui sont non seulement évidemment mémorisés, mais écrits, justement. Et ce qui est nouveau, c'est que les kanaks vaincus, mais aussi d'ailleurs ceux qui avaient aidé les Français à vaincre d'autres canards, ouais. Passent à l'écriture dans une société où il y a désormais suffisamment de gens alphabétisés pour les écrire, pour les conserver, pour les lire, etc. etc. Et ça raconte de manière très amusante comment dans les années 70, il avait complètement négligé cette écriture, parce que ce qui l'intéressait, c'est l'oralité. Donc quand les types arrivaient, quand ils affrontaient avec leur cahier d'écolier, du début du 20e siècle, ah non, ça ne m'intéresse pas du tout, hein, parce que non, ça, c'est écrit, j'en veux pas. Sans comprendre qu'il y avait eu prise d'écriture, hein, qui a permis, évidemment. Alors, effectivement, qu'il y ait d'autres situations extrêmes, finalement, qui sont toujours des situations de violence. Dans le cas du prolétaire du 19e, c'est de Rancière, c'est tout à fait évident. Il y a prise d'écriture, hein, ça me paraît aller de soi. C'est ce que dit d'ailleurs, ce que dit très bien Alain Corbin. Voilà, très simple, contrairement au plaisir, la souffrance s'énonce. Elle s'énonce comment ? Par écrit. C'est une remarque extrêmement simple. C'est ce qui fait que ces livres sur le plaisir sont tellement à la limite, parce qu'il n'y a pas évidemment les mêmes. On ne bénéficie pas évidemment des mêmes sources écrites que pour la souffrance, toutes les formes de souffrance. Alors tu as tout à fait raison. Je trouve que ce que tu dis sur l'écriture combattante, par exemple, du moment, l'écriture située plus qu'adressée. Alors elle est peut-être adressée à soi-même, hein, effectivement, mais elle est d'abord située, ça me paraît effectivement très vrai, vraiment très vrai. Les autres aussi sont situés, mais c'est pas ce que tu veux dire, c'est pas la même chose. Et ceci permet, c'est une remarque que je fais à partir de ta question qui me paraît vraiment très, très juste, qui n'est pas une question d'ailleurs, qui est plutôt une précision, c'est la question du temps. Dans quelle mesure l'écriture permet une réappropriation du temps ? Un des grands problèmes de la guerre, c'est le temps. Le temps, la guerre est un temps autre, un temps différent du temps ordinaire. Le temps n'est pas linéaire, on le sait, les historiens le savent très bien, mais un temps très particulier, hein, c'est le temps de la guerre. Et justement, l'écriture des lettres, l'écriture d'un carnet, etc., c'est un ressaisissement du temps aussi, pas seulement de soi-même. Et ça, tous les soldats l'ont dit, maintenant, voilà, une espèce de. On se forme cette bulle, hein, l'écriture permet de maîtriser à nouveau le temps dont ils sont dépossédés. Voilà, c'est vraiment quelques remarques à partir de ta question, mais je retiens l'expression.
Peut-être juste le temps pour une dernière question, s'il y en avait une, sinon ce sera des derniers.
C'est pas vraiment une question, c'est une précision sur ce que tu viens de dire. Qui était Klemperer ?
Ah oui, c'était un juif allemand, philologue, évidemment. Qui a raconté sa vie à la fois pendant la montée du nazisme et pendant le nazisme, parce qu'il a été fait partie de ces Allemands qui ont été conservés, si j'ose dire, pendant longtemps, qu'il est a travaillé, puis.
Il était marié. Il était marié avec un juif, mais marié avec une arienne, comme on disait. Et donc, ce qui lui a permis presque jusqu'au bout d'échapper au rafle, et finalement, grâce au bombardement, d'échapper finalement à la déportation qui était maintenant imminente, même pour cette catégorie d'Allemands avec lesquels le régime ne savait pas très bien comment se débrouiller. Et il écrit effectivement cet extraordinaire livre où il parle de la contamination de la langue par le nazisme, y compris la langue des juifs.
Y compris la langue des juifs, qui eux-mêmes la propre.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un ouvrage aujourd'hui majeur, je pense, dans les sciences sociales, pas seulement pour les historiens, bien sûr, mais qui est resté longtemps, finalement, très ignoré.
Sauf en linguistique,
voilà. Mais il n'était pas sorti, finalement.
Il est resté en Allemagne de l'Est, est resté longtemps en Allemagne de l'Est.
Oui, le ralliement au régime,
il n'était pas simple, lui-même.
Voilà, n'a pas dû jouer pour la diffusion large.
Il a été employé par le régime turiféraire du régime de l'Allemagne de l'Est.
Une question, une remarque, par rapport à cette veine de travail d'interrogation passionnant, pas dans le domaine des sciences sociales, mais dans le domaine de la psychanalyse, il y a une prise en compte extrêmement forte par rapport à lui-même, qui remet en cause,
notamment
dans tous ces livres de 1920, son appareil intellectuel de construire avant, pour prendre en compte la violence.
La question de l'instinct de mort.
Reconstruction qui n'existe pas du tout après la Seconde Guerre mondiale et après l'expérience du génocide. La psychanalyse, elle, dans les années 20, se remet en cause totalement pour prendre en compte ces éléments.
C'est vrai. C'est très exact. Le Freud refonde la psychanalyse littéralement. Après la Thanatos
a pris sa place.
Prend sa place, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que cette refondation n'a pas eu lieu après la. Mais bon, voilà, je suis trop. Je ne sais pas que dire de cette. Voilà, peut-on aller plus loin que cette constatation parfaite, effectivement. Qui est peut-être moins, d'ailleurs, s'il me semble-t-il, qui est peut-être moins chez Freud la découverte de la violence de guerre que la mort de sa petite fille de la grippe espagnole.
L'inquiétude vis-à-vis de ses...
C'est peut-être... Ouais.